世の中にはすぐわかるものとすぐわからないものの2種類がある。すぐにわからないものは長い時間をかけて少しずつわかってくる。
Haïku, tout court, la petite émission pour partager de la poésie. Bonjour et bienvenue dans Haïku tout court, la petite émission pour découvrir et partager ensemble les plus petits poèmes du monde, à savoir les haïkus. Dans cette cinquième émission, nous allons enfin parler du grand maître, au grand maître Matsuo Basho. Et oui, il faut bien lui consacrer une émission. On pourrait même d'ailleurs lui consacrer 10 émissions si on le voulait. Je n'ai pas arrêté de citer son nom dans chacune des émissions précédentes et j'ai déjà lu plus d'une dizaine de ses poèmes depuis le début de cette série. Pour commencer cette émission, je pense qu'il est important, enfin, de savoir aussi comment s'appelle un ou une auteur de haïku. Lorsque j'ai demandé à des élèves d'une classe de trouver le nom, j'ai eu plein de réponses fantaisistes et adorables. Haïkuner, haïker, haïkuman, et d'autres. En réalité, il y a deux façons d'appeler un poète auteur de haïku. Haïkiste ou haïjin. Les deux versions sont admises, même si je préfère largement haïjin. On a coutume de dire que le haïkiste est un auteur de haïku français et le haïjin japonais. C'est peut-être aussi le bon moment pour apprendre que le nom même de haïku n'a été officiel qu'au début du XXe siècle. À l'époque, le ranga n'était plus beaucoup pratiqué au Japon, mais les poètes écrivaient toujours des oku, totalement indépendants de tout poème chaîné. Pour désigner ces poèmes isolés et éviter tout malentendu, eh bien c'est le poète Shiki qui a créé le mot haïku. Mais revenons à Basho. Basho est un pseudo de haïjin. Il signifie « bananier ». Il l'a choisi car l'un de ses disciples en a planté un devant son ermitage. Matsuo Basho est né en 1644, il s'agit du début de l'époque Edo, et il est mort en 1694 à l'âge de 50 ans. Lorsqu'il naît, cela fait presque 40 ans qu'il n'y a plus de guerre dans le pays et celui-ci a été unifié. C'est une période où la vie est plus sûre et où les arts et les activités culturelles sont en plein essor. Edo, actuel Tokyo, est devenue la capitale du pays. Fils de samouraï, Matsuo Munefusa, de son vrai nom, découvre et pratique le haïku à partir de 13 ans, avec le fils d'un seigneur au service duquel il travaille. Yoshitade est de 2 ans plus vieux que lui. Ils se lient d'amitié tous les deux et apprennent ensemble les arts, la calligraphie, la peinture et la poésie auprès de Kigin, maître de l'école Taimon. À 20 ans, l'un de ses haïkus est publié dans un recueil. C'est un inestimable honneur pour un si jeune poète. En 1666, son ami meurt. Basho quittera peu à peu la région. On perd d'ailleurs sa trace, mais on sait qu'il va s'installer à Edo en 1672, donc bien des années après. Il n'a jamais cessé d'apprendre et de pratiquer la poésie, et c'est à cette même époque qu'il publie un célèbre recueil de poèmes intitulé « Jeux de coquillages », d'où est extrait ce poème très connu au Japon. Un corbeau perché sur une branche défeuillée, soir d'automne. Dans la ville d'Edo, il va travailler comme fonctionnaire tout en continuant de pratiquer la poésie. Et en 1680, grâce au soutien de riches admirateurs, il peut enfin se consacrer uniquement à la poésie. Il crée alors l'école de Shomon, école de l'authenticité, se basant sur la profondeur spirituelle et la subtilité esthétique. C'est aussi cette année-là, en 1680, qu'un riche disciple lui offre un ermitage sur les rives de la Sumida, dans les faubourgs de Fukagawa, loin de la vie citadine. En 1681, eh bien, c'est l'année où un disciple lui offre le fameux bananier qui sera planté à l'entrée de son ermitage et qui servira à choisir son pseudonyme le plus connu, Basho, son dernier pseudonyme parce qu'il en avait eu plusieurs auparavant. En 1682, son ermitage brûle durant le terrible incendie d'Edo. Et le temps que ses disciples reconstruisent son ermitage, ils sont cool les disciples, il part en voyage à travers le pays. Lui aussi est très cool. Il effectuera plusieurs voyages d'ailleurs. Le premier ne donnera aucun écrit, mais les suivants donneront lieu à des récits émaillés de haïku. Il créera ainsi ce que l'on appelle un haïbun. Nous consacrerons d'ailleurs une émission spéciale à ce sujet. Ma vie de voyageur, le va-et-vient d'un paysan labourant la rizière. Pieds lavés, je m'endors pour une courte nuit, tout habillé. Fleur d'iris, parler du voyage, un plaisir de voyage. Cherchant une auberge, fatigué. Ah, ces fleurs de glycine. Il faut imaginer Bachot partant pour de longs mois. Il est habillé comme un moine, mais n'est pas rentré dans les ordres. Cet habit est pour lui un moyen de vivre simplement, mais aussi de ne pas passer pour un vagabond. Ces voyages sont l'occasion de visiter des lieux où ont vécu d'autres poètes, ou cités par ces poètes mêmes, des sanctuaires, mais aussi de répandre sa conception de la poésie en retrouvant de nombreuses écoles de poésie, en organisant des koukaïs, des réunions de poètes. On en parlera aussi dans une autre émission. Après son premier voyage, il reste 2 ans à son nouvel ermitage d'Edo. C'est une période charnière dans la vie du poète qui, en 1686, va publier le recueil « Jour de printemps » qui contient son poème le plus célèbre. « Vieil étang, une rainette y plongeant, bruit de l'eau. » Ce poème a été traduit et commenté un nombre considérable de fois. On pourrait y consacrer une émission entière que l'on n'épuiserait même pas le sujet. Il fera encore plusieurs voyages de plus en plus longs et en 1689, il parcourt d'ailleurs plus de 2000 kilomètres. Ce n'est qu'à partir de 1691 qu'il restera dans son ermitage et arrêtera de voyager de longs mois à travers le pays. Il mourra quelques années après, 3 ans, et pour l'anecdote, un bananier a été planté sur sa tombe. Un jour, nous nous pencherons sur le style caractéristique de l'école de Bachot appelée Chauffou, avec les 7 qualités principales d'un haïku. Toutes les informations et les poèmes de Bachot de cette émission ont été tirés du recueil « Bachot, seigneur ermite, l'intégrale des haïkus », traduit et adapté par Makoto Kemoku et Dominique Chipot. C'est une édition bilingue publiée aux éditions du Point. Et maintenant que nous en savons plus sur le Aijin Matsuo Bachot et que nous avons écouté bon nombre de ses poèmes, écoutons quelques haïkus qui n'ont rien à envier à ceux du maître. Ils sont extraits de « Haïku », un recueil publié chez Folio Bilingue. Ce sont des haïkus de Shiki, Oshima, Ryota et Shioni. J'ai tué une araignée. Solitude de la nuit noire. Poursuivi, la luciole s'abrite dans un rayon de lune. Au-dessus de l'eau, elle survole son ombre. Oh, la libellule. 3 poèmes très inspirés et qui ont la finesse et la sensibilité des poèmes de Bachot. Comme toujours, finissons cette émission par un petit exercice.
Écrire des poèmes, c'est chercher la beauté, comprenez-vous ? Dans ce qu'on a sous les yeux.
Pour cette 5e émission sur Bachot, je vous propose, vous aussi, d'inventer votre nom de plume, votre nom de haïjin. Souvent, on garde seulement son prénom, mais on peut aussi prendre le prénom d'une région, d'un village, ou même de son animal préféré. Bachot signifie bananier, nous l'avons vu. Issa signifie un peu de thé. Shiki, dont on a parlé tout à l'heure, signifie petit coucou. Shioni, la grande poétesse, a choisi plus tard dans sa vie le nom de So-en, qui veut dire jardin dépouillé. Choisir un nom de haïjin, ce n'est pas rien. C'est déjà s'avouer poète. Bonne chance. Merci d'avoir écouté cette émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je présenterai un florilège de poèmes accompagnés de commentaires. On continuera, bien entendu, à écouter des haïkus. Poétiquement vôtre.